Bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis vraiment très heureux de vous rencontrer, de vous revoir à nouveau. Et je suis même particulièrement ému chaque fois que je reviens dans cette salle, revoir des visages connus. Et je sais que j'ai la charge de vous apporter la parole ce matin et c'est une lourde responsabilité parce que je me sens tout petit, j'ai conscience de prendre, devenir après des décennies de prédicateurs dans ces locaux. Je repense à notre ami Georges qui est auprès du Seigneur, je repense à Rémi, je repense à Pierrot qui a pris la parole, Marcel et tant d'autres personnes. Donc voilà, il y a un héritage et puis j'ai conscience de continuer à bâtir sur cet héritage de la parole qui a été annoncée par tant de personnes. La Bible nous dit de nous souvenir de nos conducteurs et d'imiter leur foi. Voilà. Et donc ce qui me conduit dans la vie, c'est d'imiter la foi de ces personnes, j'y repense souvent. Et c'est ce qui me motive dans la vie. Voilà, avant de poursuivre, on va s'incliner et on va demander la grâce de Dieu. Notre Dieu, notre Père, c'est avec grande crainte et tremblement que je me présente devant toi ce matin pour annoncer ta parole, parce que c'est une charge qui est lourde et je te demande vraiment l'aide de ton Saint-Esprit, parce que c'est une responsabilité de parler au nom du Roi du Roi, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Et je te prie, Seigneur, de me venir en aide ce matin. Et que tu ouvres aussi nos oreilles, nos cœurs, que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi, comme le disait le prophète. Aide-nous à comprendre ces merveilles, Seigneur. Amen. Voilà, mais je suis très réjoui d'être là. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune converti, on fréquentait aussi cette assemblée, mais au tout début de ma vie chrétienne, quand je témoignais du Seigneur, je ne m'y prenais pas très bien, parce que je voulais attirer l'attention des gens sur Dieu. Alors, je leur disais, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, ce n'est pas la bonne question à poser. C'est à l'époque, je n'avais pas fait de commercial, j'étais un très mauvais commercial, je ne suis pas guère plus maintenant, mais j'ai appris quelques trucs depuis, mais en posant cette question, finalement, je m'enfermais dans un piège parce que les gens me disaient, oui, je crois en Dieu, oui. Est-ce que vous croyez en Jésus? Ah oui, vous savez que Jésus est mort pour vos péchés? Oui, oui, je le sais. Voilà. Puis ça conduisait en rien, finalement. Et je m'aperçois que croire en Dieu, ça ne veut rien dire. Puisque la Bible nous dit, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Donc, ça ne veut vraiment rien dire. Et donc, ça conduisait à des échecs, ça m'a amené à réfléchir. Je ne sais pas comment vous faites maintenant pour aborder le témoignage. Est-ce que vous posez ce genre de questions? Non? Qu'est-ce que vous faites d'autre? Qu'est-ce que vous demandez aux gens? Alors, personne ne témoigne dans la fondée.
Vous avez vu aussi par les actions qu'on pose.
Parlez?
Les actions qu'on pose aux uns et aux autres.
Oui.
Ça peut aussi témoigner de cela.
Oui, oui.
Ah
oui, lorsque notre comportement.
Voilà.
Mais quand, tout à fait. Notre comportement peut ouvrir la porte finalement à une action de témoignage. Mais à un moment donné, il faut confronter la personne. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce moment-là? Donc, depuis, j'ai un peu progressé. Vous voulez savoir ce que je dis? Ça vous intéresse? Je fais en fait, j'imite Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus lorsqu'il a pris ses disciples à Césarée de Philippe? Il leur a posé une question, et qu'est-ce qu'il leur a posé comme question? Vous vous en souvenez? Lorsqu'il a pris ses disciples à Césarée de Philippe, dans l'évangile de Matthieu, je ne me souviens plus de la référence, il leur a demandé une question très simple. Qui dites-vous que je suis? Eh bien, tout simplement, je demande, qui est Jésus-Christ pour vous? Qui est Jésus-Christ pour vous? Alors, il n'y a même pas 15 jours, on était en vacances avec notre famille, et j'étais en discussion avec la personne qui nous nettoyait la chambre, et je lui ai posé cette question. Et il m'a dit, en gros, donc c'est un Philippin, il m'a répondu en anglais, il m'a dit, Jésus, c'est mon pote. Voilà. Donc, c'était un mormon, en fait, et donc, pour lui, Jésus, c'était, oui, un prophète, un ami, il avait une espèce de proximité, mais voilà, il a donné ce type de réponse. Ça me rappelle une anecdote aussi. Il y a quelques années, j'étais à San Francisco et je devais passer un week-end. Et du coup, comme j'étais là le week-end, le dimanche, je me suis dit, je vais aller dans une église. Et alors, je prends l'annuaire. Et aux États-Unis, vous savez, les annuaires, les églises évangéliques, enfin tout ça, il y y en a des tonnes, et je prie le Seigneur, je dis Seigneur, mais oriente-moi, parce qu'il y avait des pages et des pages d'églises chrétiennes de tout sort. Puis à un moment donné, je tombe sur un nom qui m'inspire un peu, il y avait un numéro de téléphone. Je téléphone, et puis j'ai une personne qui me répond au bout du fil, très enthousiaste et tout. Et puis à un moment donné, je discute et je lui pose cette question. Je lui dis, qui est Jésus-Christ pour vous? Et alors là, le téléphone est ici, vous savez, comme dans les bandes dessinées à un moment donné, quand la voix s'élève, vous avez l'image, le combiné, et puis des espèces d'onomatopées qui sortent sur la bulle. Il me répond en criant, Jésus-Christ est Dieu! Donc en anglais, Jésus-Christ est Dieu. J'ai dit, c'est bon. C'est la bonne église. Et figurez-vous, je suis allé dans cette église, c'était super. Dans cette église, il n'y avait que des gens de la même couleur de peau que Louis. Exactement. J'étais le seul blanc, mais alors c'était un culte extraordinaire. Franchement, ça a duré 2h30, le prédicateur a parlé 1h15 avec un enthousiasme, on était tous scotchés, comme quoi la question « qui est Jésus-Christ ?» est vraiment importante. Et du coup, ça m'amène... Ça fait plusieurs mois que je réfléchis à un thème que je veux partager avec vous ce matin. C'est de se dire finalement quels sont les fondements de notre foi. Et c'est important de savoir en quoi on croit. Hein, parce que je posais la question, croyez-vous en Dieu? Ben oui, je crois en Dieu, mais croyez rien, la personne qui me répondait ça. Donc finalement, quels sont les fondements de notre foi? Et je voudrais tout simplement aujourd'hui reposer ces fondements en insistant sur un fondement en particulier. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3. Il nous dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte » et ensuite on bâtit sur ce fondement. Mais encore faut-il parfois revenir à ces fondements. Et donc j'aimerais avec vous ce matin revoir finalement quatre doctrines de base concernant Jésus-Christ. Je suis content parce qu'aujourd'hui ce culte est vraiment orienté sur Jésus-Christ. Le dernier chant qu'on a chanté, c'est « Jésus-Christ ». Voilà, je repense à ton sacrifice. Et donc, ce qui est important, c'est Jésus-Christ en premier. C'est pour ça que ce que je vais vous dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Retenez juste, voilà, on va prendre la parole de Dieu. J'ai quatre jeunes lecteurs qui vont m'aider. Hein, je ne sais pas si vous êtes prêts, les quatre jeunes lecteurs, voilà, qui vont m'aider, alors soit de leur place, soit en venant au micro. Et on va reposer quatre fondements. Pourquoi quatre? Ben, tout simplement, regardez, là-bas, il y a une chaise. Elle a combien de pieds? Vous êtes à... Elle est bancale? 4 pieds, c'est bancal. Au final, ça, c'est un ingénieur qui parle. Là, il m'a compté. Bon, alors, les bancs sur lesquels vous êtes, il y a combien d'appuis sur ces bancs? Il y en a 4, d'accord. Est-ce que vous vous sentez bancal? Non, vous n'êtes pas bancal. Donc, on va... Ok. On se comprend. Alors, 4 fondements de notre foi, 4 doctrines fondamentales. Et on va insister, alors on ne va pas faire de théologie, je ne vais pas vous sortir des grands termes en grec et tout ça, ce n'est pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais de cette doctrine, de ces doctrines? Qu'est-ce que j'en fais dans ma vie quotidienne? Parce que tout à l'heure, nous allons partir, on va se réjouir, on va manger, ensuite il y a la chorale cet après-midi, on va retourner dans notre travail dans la semaine. Et finalement, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça dans ma vie quotidienne? Alors la première de ces doctrines, je ne sais pas si ça marche, il faut que je vise là-bas. Ah, c'est le bouton de droite, oui, d'accord. La première doctrine, on l'a déjà vu, c'est la croix. Alors la croix, bien sûr, on a insisté dessus, mais quelle est l'importance de la croix? Quelle est l'importance de la croix pour nous au quotidien? Et là, je vais demander au premier lecteur qui va me lire Romains 8.1, qui est vraiment le pilier de notre foi, c'est ce avec quoi on doit commencer. Qui a Romains 8.1? Horeb, tu peux nous lire Romains 8.1 fort.
Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés.
Voilà. Il n'y a plus de condamnation. La croix, ça nous donne le droit d'être pardonnés par Dieu. Nous sommes pécheurs et nous sommes pardonnés. C'est terminé, il n'y a plus de condamnation. De temps en temps, je me lève le matin. Parfois, je suis fatigué, j'ai mal dormi, mais je repense à ça, je me dis, Seigneur, je me lève aujourd'hui, je sais que j'ai la vie éternelle. Je sais que tu reviendras et que je ne suis plus sous la condamnation. On n'y pense pas, ça. On pense à des tas de choses, on pense à des soucis qui nous envahissent. Qu'est-ce qu'on va faire dans la journée? Qu'est-ce qu'on va faire dans la semaine? Le client qu'on va rencontrer, le patron qu'on va revoir, les enfants qu'il faut emmener à l'école. Et pourtant, on est pardonné. On est pardonné et on est réconcilié avec Dieu. On va lire donc 2 Corinthiens 5, 18. Aurèle, tu peux continuer? Oui.
Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ.
Voilà.
Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation.
Voilà. Merci Horeb. Nous sommes donc pardonnés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est une folie, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, 18, la Bible nous dit que c'est une folie aux yeux du monde. Ça paraît complètement fou et pourtant, on est pardonné, réconcilié, tout ça gratuitement, ça ne vient pas de nous. Hein, je ne vais pas reprendre ces versets, mais revenez vraiment à ce fondamental. Notre vie chrétienne est basée là-dessus, sur le pardon et la réconciliation. Dieu nous est maintenant favorable, nous pouvons nous approcher de lui, nous pouvons prier, nous pouvons lui apporter nos fardeaux, il nous écoute. Donc on reçoit cette grâce merveilleuse et inépuisable qui est dans le pardon de Dieu. Alors bien sûr, en échange, Dieu nous demande des choses aussi, on a le devoir nous aussi de pardonner, parce qu'on a été pardonné, Dieu nous demande de pardonner au quotidien. Et ce n'est pas facile, parce que lorsqu'on est en relation les uns avec les autres, eh bien on est toujours sous tension, et sans arrêt, il faut revenir à ce pardon. C'est pour ça que c'est un fondement. Cette croix est un fondement pour nous. Nous l'avons chanté tout à l'heure. On a chanté « Joyeux, je prends ma croix ». Alors, c'est pas toujours joyeux qu'on prend sa croix. C'est pas toujours évident. Mais pourtant, c'est vers ça qu'il faut revenir pour justement goûter cette joie d'être pardonné et d'être réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la première des doctrines. On pourrait parler longuement sur la croix. Ce n'est pas mon objet aujourd'hui. Je vous rappelle juste le fondement et les conséquences. Deuxième fondement, la résurrection. Alors la résurrection, c'est un peu la devise de l'Église. Avant, il y avait le verset « Christ est ressuscité ». Pour l'instant, il n'y est pas encore. Je pense que vous attendez la fin des travaux pour le remettre, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est la devise de l'Église et on l'a dit tout à l'heure, c'est affiché dans le PowerPoint. Et c'est un sujet qui est important aussi, il est tellement important que c'est un sujet qui est sans arrêt controversé. De tout temps, il a été controversé. Souvenez-vous, dès la résurrection de Jésus, les pharisiens payent les soldats pour mentir, pour dire les disciples sont venus dérober le corps. Donc dès le départ, c'est un sujet de controverse. C'est un sujet d'opposition. Souvenez-vous aussi de l'apôtre Paul lorsqu'il parle aux Athéniens à l'Areopage. Il l'écoute très attentivement jusqu'au moment où il parle de résurrection. Quand il parle celui qu'il a ressuscité d'entre les morts, tout le monde commence à se moquer et les gens s'en vont. C'est un sujet qui est vraiment très polémique. Je pense que le diable essaye d'éloigner les gens de cet état de fait. Pourquoi ? Parce que la résurrection a des conséquences. Elle a des conséquences. Quelles sont les conséquences de la résurrection ? C'est que nous aussi, nous allons ressusciter. Et là, je vais demander au lecteur, c'est toi Maxime, je crois, de nous lire des passages. Donc, autant Romains 8, 1, c'était vraiment le fondement du pardon et de la condamnation à laquelle nous échappons. Autant la résurrection, le chapitre clé de la Bible, c'est 1 Corinthiens 15. Donc on va lire quelques extraits, Maxime. Tu peux nous lire quelques extraits de 1 Corinthiens 15 pour qu'on fonde bien, encore une fois, notre position là-dessus.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures.
On passe au verset 11, donc là c'est 1-4. Je vous donnerai les versets si tous ceux qui veulent le garder. Le PowerPoint est à disposition, j'ai une page résumée de tous les versets si ça vous intéresse. Donc à partir du verset 11.
Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des bons témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, et si ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Verset 35.
Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous les morts, et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Mais chacun en son temps. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé épuisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel.
Voilà. Merci Maxime. Voilà quelques extraits de 1 Corinthiens 15 qui nous dit que Christ est ressuscité. Il est les prémices, c'est-à-dire c'est le premier qui est ressuscité et nous autres nous suivrons. Donc pourquoi la résurrection est importante? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous au quotidien? Ben, tout simplement parce que depuis la chute d'Adam, nous savons que notre corps subit une dégradation permanente. Un jour, moi j'étais jeune, j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tout allait bien. Maintenant, j'ai plus de 50 ans, j'ai des petites douleurs. Il y a 16 ans, j'ai été moi-même aussi opéré du cœur. J'ai une opération à cœur ouvert, on m'a fait 6 pontages, et j'ai un corps complètement dégradé. J'ai un cœur qui est complètement enserré dans de la fibrose, avec les artères coronaires. Je ne sais pas bien comment ça fonctionne, mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc, j'ai un corps qui se dégrade. Et vous aussi, ici, en fonction de l'expérience que vous avez dans la vie, vous avez un corps qui vieillit, qui se dégrade. Voilà, ça, c'est l'état qui est né de la chute d'Adam. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, ce corps mortel, finalement, un jour, va disparaître. Mais la Bible nous dit que nous ressusciterons avec un corps glorieux. Pourquoi? Parce que Christ, il est ressuscité. Voilà, tout simplement, il est venu et il est ressuscité. Il nous a montré le chemin. C'est important également parce que nous serons transformés à la ressemblance de Christ. Déjà ici-bas, Dieu travaille dans notre vie, avec notre caractère, pour que nous nous approchions à de la ressemblance de Christ. Et parfois, ce n'est pas facile. Parce qu'on est un peu comme de l'argile, on a du mal à se laisser modeler. Donc Dieu travaille avec nous, et un jour nous serons ressuscités, nous aurons un corps glorifié, plus de maladies, plus de douleurs, plus de boiteries, plus de handicap, et nous serons transformés à la ressemblance de Christ. Alléluia.
Amen.
Donc la mort de Christ, c'est pas comme ce qu'a dit le fameux révérend Moon, vous savez, le fondateur de la secte Moon. Il disait, Jésus est mort, c'est un échec. Il est bien, Jésus, c'est un brave type, mais il est mort et il a échoué dans sa mission. Ben, Moon, il n'avait rien compris. Parce que la mort de Christ, ce n'est pas un échec, c'est un commencement. Et c'est une espérance pour chacun de nous de se dire, un jour, nous serons ressuscités. On n'a pas trop de temps pour lire, il y a le passage de 1 Thessaloniciens 4 aussi, qui nous parle de la résurrection, qui nous parle du retour de Jésus. Tout à l'heure, Yves en a parlé, Jésus reviendra. Quand Jésus va revenir, c'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter les premiers, monter à la rencontre de Jésus. Et nous autres, si on a la chance d'être là pendant que Jésus revient, eh bien nous monterons, mais sans précéder ceux qui sont déjà morts. Et voilà. Et nous monterons à la rencontre du Christ, il y aura les noces de l'agneau, le tribunal de Christ, etc. Voilà. Et donc, la conséquence de tout ça, on va lire Colossiens 3, verset 1. Tu peux nous lire Colossiens 3, verset 1.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et Christ est assis à la droite de Dieu.
Voilà. Cherchez les choses d'en haut. Si on est ressuscité avec Christ, c'est ce que nous dit Paul aux Colossiens, eh bien, on doit s'attacher. Hein, il y a certaines versions, les anciennes versions secondes disaient « Affectionnez-vous aux choses d'en haut » ou « Attachez-vous aux choses d'en haut ». Donc, c'est regarder non plus aux choses de la terre, même si on vit dans le quotidien, mais tourner ses regards vers ce qui est céleste. Voilà, donc la résurrection. Deuxième point que je voulais souligner. La troisième doctrine concernant Jésus qui est importante, et ça suit un petit peu dans l'ordre, c'est l'ascension. L'ascension, ça aussi, l'ascension, c'est quelque chose d'important, et on va voir les conséquences pour notre vie pratique. Donc, qui a le troisième passage? C'est toi, Sonia. Tu peux nous lire Actes 1, 8 à 11.
Merci
Sonia. Donc l'ascension de Jésus qui nous est relatée dans le début des Actes par Luc. Hein, on pourrait reprendre Luc 22, 69. Tu peux nous lire Luc 22, 69
hein? Alors, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu.
Tout à fait. Donc ça, c'est Jésus qui s'adresse aux pharisiens hein, et qui leur dit que l'ascension va impliquer plusieurs choses. La première chose, on l'a vu, c'est que l'ascension, dans son annonce, eh bien, elle préfigure, elle annonce également le retour. C'est-à-dire, de la même façon que vous l'avez vu s'élever, Jésus reviendra. Tu l'as dit, Yves, Jésus reviendra, c'est une assurance. Même s'il ne revient pas, même si on ne voit rien venir, un jour nous savons que Jésus reviendra. Et donc, ça implique l'ascension, ça implique l'envoi du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Bah, tout simplement, quand Jésus était là en forme physique, il était dans un lieu et pas dans un autre. Donc quand il était avec ses disciples, il n'était pas avec Lazare. Quand il était avec ses disciples, il n'était pas avec Marthe et Marie pour les consoler. Donc Jésus s'en va au ciel, il vous est avantageux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est présent partout. Donc on n'a pas besoin d'avoir chacun. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une quantité divisible. C'est-à-dire, plus il y a de chrétiens dans le monde, plus Saint-Esprit est divisé. Ce n'est pas ça, c'est la plénitude pour chacun. Et plus il y en a, plus il y en a encore. C'est l'abondance. Donc, c'est l'envoi du Saint-Esprit, ça c'est un premier point. C'est l'annonce de son retour, on a vu. Et surtout, c'est que Jésus maintenant est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Ça, c'est important. Jésus est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On va lire Sonia Romains 8, 33 à 34. Pour en être sûr, s'il y en a qui doutent. Tout ce que je dis, ça vient de la parole de Dieu, hein, mais c'est bien d'avoir les versets.
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous.
Super. Il intercède pour nous. Donc ça veut dire que quel que soit le fardeau que vous avez aujourd'hui, quel que soit le sujet de prière, même quand vous dormez, Jésus ne dort pas, il intercède parce qu'il est à la droite de Dieu. Ce que je vous propose, on va faire un petit break et on va chanter le chant 519 dans J'aime l'Éternel, hein, qui s'appelle Élevé à la droite de Dieu. Hein, on va se lever, on va respirer, et on va se détendre un peu et on va penser aux paroles de ce chant qui nous dit Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de son trône. Et nous aussi, ce matin, on crie notre espérance par rapport à la position de Jésus à la droite de Dieu.
Thank you.
Sonia, tu peux nous lire encore Jean 14, 1 à 4, s'il te plaît, pour compléter un point auquel on ne pense pas souvent quand on parle de l'ascension. C'est vrai qu'on parle de l'envoi du Saint-Esprit, on parle de Jésus à la droite de Dieu, mais il y a un point que je voudrais encore souligner concernant l'ascension de Jésus.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.
Voilà, merci. Ce qui est important de se souvenir, c'est que Jésus nous prépare une place. L'ascension implique que Jésus est un précurseur. Jésus est un éclaireur. Il nous prépare une place dans le ciel. Peut-être ici-bas, vous n'avez pas de logement, vous êtes en location, vous avez peut-être une maison qui ne vous satisfait pas. Mais au ciel, nous aurons une maison éternelle parce que Jésus nous a préparé une place. Et ça, il faut bien s'en souvenir. Parce que le contexte de Jean 14, c'est des disciples désemparés, des disciples qui comprenaient que Jésus allait partir, ils allaient se retrouver tout seuls, ils avaient le regard fixé sur cette terre, et Jésus leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas, je monte au ciel et je vais vous préparer une place. » Jésus a déjà signé un bail de location éternelle pour nous, pour une demeure dans le ciel. Et ça, c'est important aussi de s'en souvenir. Voilà, donc ces trois doctrines qui sont donc la croix, la résurrection et l'ascension, sont alors la croix, ça concerne notre passé, hein, notre passé qui est effacé, finalement avec un avenir radieux qui s'ouvre devant nous. L'ascension et la résurrection nous parlent plutôt du futur, c'est une espérance. Et il manque quoi entre le passé et le futur? Il nous manque le présent. Alors quelle est la doctrine importante qu'il faut connaître, qui nous parle du présent, une doctrine un peu moins connue, enfin elle est très connue et pas connue en même temps, qui nous parle du présent. En quoi ça peut nous aider? Eh bien, trahi par la technique là. Quelqu'un peut passer la diapo, alors tout le monde retient son souffle. Qu'est-ce qui va apparaître? Alors je vais vous la donner parce qu'on va la préparer bientôt. On est en train de préparer ce quatrième point. C'est la venue de Jésus. C'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Alors, l'incarnation est importante à comprendre d'un point de vue pratique parce qu'elle concerne le présent. Alors, comment ça s'est passé, l'incarnation? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. C'est un mystère qu'on saura certainement au ciel. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit est venu dans le ventre de Marie, mais les conséquences de l'incarnation, on les connaît. Et on va lire donc, je vais demander à Noémie qu'elle nous lise Jean chapitre 1, verset 14. On n'a pas le temps malheureusement de relire ce prologue de Jean, mais on va au moins relire le verset 14 qui nous parle justement de l'incarnation. Voilà, donc l'incarnation, c'est la venue de Jésus, la parole éternelle, cette parole qui est présente dès Genèse 1, 2, qui a fait le monde, qui a tout créé, cette parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et la parole, pourquoi l'incarnation est importante à comprendre? Parce que c'est un modèle pour nous de grâce et de vérité. C'est-à-dire, c'est la véritable identité. Jésus était pleinement lui-même, grâce envers les autres et vérité envers soi-même. Et la vie chrétienne, c'est difficile d'équilibrer la grâce et la vérité. Par exemple, quand vous avez une affaire à juger, vous êtes responsable d'église, vous avez une affaire à juger. Où est-ce que je mets la grâce, où est-ce que je mets la vérité? C'est toujours très très difficile. Et dans la vie, on est sans cesse confronté à des choix entre la grâce et la vérité. Et Jésus, pour nous, est venu pour nous montrer comment on peut, au présent, vivre notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que Jésus, il a vécu la vie chrétienne. Il est venu dans la même chair que nous. Il a eu les mêmes tentations que nous, il s'est volontairement limité pour devenir semblable à nous, on verra les versets là tout à l'heure, pour nous montrer un modèle de grâce et de vérité. Et par exemple, lorsque Jésus traite avec la femme adultère, nous voyons ici l'expression, on n'a pas le temps de prendre le texte, vous pouvez regarder en Jean chapitre 8, comment est-ce que Jésus traite la femme adultère? Est-ce qu'il lui absout tout en disant « c'est pas grave, vas-y, continue » Non. Non, il lui dit « va, il ne pêche pas ». Et je pense que la femme a retenu le modèle. Mais en même temps, il a fait preuve de grâce par rapport aux pharisiens qui voulaient la condamner. Et ça, cette doctrine de l'incarnation est importante à comprendre parce qu'elle va conditionner l'identité que Jésus a à nos yeux et en quelque sorte, elle va aider à répondre à la question « qui est Jésus-Christ ?» pour vous. Parce que ce n'est pas une question qu'on pose que dans les phases d'évangélisation. C'est une question qui nous concerne au quotidien, chacun de nous. Qui est Jésus-Christ pour moi? Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle conditionne l'identité de Jésus à mes yeux et qu'elle conditionne aussi mon identité. Parce que mon identité, qui je suis en tant que chrétien, va dépendre de l'image que j'ai de l'identité de Jésus. Et c'est pour ça que je vais prendre peut-être 5 minutes, il faudrait prendre plusieurs, beaucoup plus que ça, mais je vais prendre 5 minutes pour développer ce thème, finalement, quelle est l'identité de Jésus, Jésus plein de grâce et de vérité. On va lire 1 Jean 2, verset 6, 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 6. Voilà. Donc en fait, Jésus, il a marché sur cette terre, et si on est disciple de Jésus, si on dit qu'on demeure en lui, il faut qu'on marche comme il a marché. Donc il faut coller nos pas sur le modèle de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà marché en montagne, il y a beaucoup de neige, vous marchez dans la poudreuse, il y a 50 cm de poudreuse, on n'avance pas. On se plante à chaque fois, on met les pieds, ça s'enfonce, on n'arrive pas à avancer. Si quelqu'un est passé avant nous, eh bien, le fait de marcher dans des traces qui ont déjà été aplatis, ça va beaucoup mieux. Donc celui qui dit demeurer en Jésus doit marcher comme Jésus a marché. On va prendre 1 Pierre chapitre 2 verset 21.
C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses
traces. Ok, vous souffrez sur cette terre? Vous avez des difficultés? Christ aussi a souffert, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et on va prendre Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16.
Ainsi, puisque nous avons dans Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui, après avoir traversé les cieux, est auprès de Dieu, demeure fermement attaché à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment.
Merci. Donc nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir selon les versions, compatir à nos faiblesses ou comment tu as lu là, Noémie, c'était comment le mot que tu as dans la version? Nous n'avons pas un grand prêtre capable de, enfin, moi j'ai compatir dans la version, compatir à vos
faiblesses.
Voilà, se sentir touché ou compatir. En grec, ce terme, c'est le seul mot grec que j'ai utilisé de la journée. Je vous ai dit que je ne ferai pas de théologie, mais là c'est un mot important, c'est le mot sympathéo qui vient de sympathie. C'est-à-dire, c'est la capacité d'être affecté du même sentiment que l'autre. Vous savez, on parle beaucoup d'empathie aujourd'hui. L'empathie, c'est juste comprendre la position de l'autre, mais sans prendre sa place. Sympathie, c'est plus fort, c'est on vient et on vient rentrer finalement dans l'autre. Ça veut dire que Jésus, non seulement il nous a laissé un exemple, mais en plus il est capable, parce qu'il a vécu des choses lui-même, il est capable de se mettre à notre place. Donc, quelle que soit aujourd'hui la difficulté, la souffrance que tu vis, Jésus est capable de venir en toi, de ressentir de la même façon, sympathéo, il est capable de venir. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'identité de Jésus. parce que Jésus s'est incarné, et j'ai conscience que je n'ai pas suivi un ordre logique, j'ai commencé par la croix, la résurrection, l'ascension, là c'est logique, et l'incarnation revient un peu en arrière. Mais l'incarnation pour moi est vraiment, enfin, je ne sais pas s'il y en a, il y a quatre, une plus importante que l'autre, mais je pense que ça, ce n'est pas très bien compris. Ce n'est pas très bien compris, parce que Jésus est vraiment, vraiment l'exemple, il est vraiment le modèle qui nous aide. Et quand on regarde les évangiles, moi depuis, ça fait plusieurs mois que je relis les évangiles, hein, dans ma lecture quotidienne, uniquement avec un regard sur le modèle de Jésus, le modèle de leadership de Jésus, comment Jésus fait. Par exemple, comment est-ce qu'il fait quand il chasse les marchands du temple? Quelle est sa posture? Comment Jésus fait pour répondre à des controverses de pharisiens? Comment Jésus fait pour résoudre des conflits en Matthieu 18? Comment Jésus fait quand il rencontre le jeune homme riche? Vous voyez, il y a des tas d'exemples pratiques, d'études de la vie de Jésus qui nous donnent un modèle de grâce et de vérité. Et le fait de s'imprégner de ces lectures, eh bien, ça permet de se dire, ben voilà, la vie chrétienne, je dois la vivre comme ça. Je veux la vivre comme ça parce que Jésus m'a demandé de le vivre. Il m'a demandé que celui qui demeure, déclare demeurer en lui doit marcher comme lui-même a marché. Donc si je viens le dimanche matin pour louer le Seigneur, j'annonce un peu à tout le monde que je veux demeurer en lui et marcher comme il a marché. Et si je veux faire ça, ben, je dois m'inspirer du modèle de Jésus. Je dois m'inspirer de ce modèle parce que Jésus, c'est le dernier Adam. Jésus, c'est celui qui a réussi, c'est l'homme parfait qui a réussi là où le premier Adam a échoué. Et autant tous les hommes sur cette terre ont échoué, et même le peuple d'Israël en tant qu'homme a échoué à obéir à la loi. Donc le modèle donné par Dieu dans l'Ancien Testament a échoué pour tous les hommes, mais il a réussi, Jésus a réussi. C'est pour ça que Jésus a dit, tout est accompli. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus est venu pour nous dire, vivre avec Dieu, c'est possible. Regardez, je l'ai fait. Et maintenant, je suis mort, c'est vrai, j'ai pardonné vos péchés, je suis ressuscité, je suis assis à la droite de Dieu, j'intercède pour vous, je compatis à vos faiblesses, j'ai de la sympathie pour vous, je comprends votre situation, je peux vous aider à vivre. Regardez-moi. Voilà ce que nous dit Jésus. Et je voudrais finir en vous lisant un passage qui résume bien pour moi l'importance de ces quatre doctrines dans la vie, dans nos vies de tous les jours. Et c'est le passage bien connu des disciples d'Emmaüs. Donc on va lire, on va ouvrir nos Bibles, on va lire dans Luc 24, à partir du verset 13, ces disciples d'Emmaüs finalement, qui nous ressemblent tellement, moi je me retrouve tellement dans ces disciples. Et voici que ce même jour, verset 13 du chapitre 24 de Luc. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues lui dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent, disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent alors même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons. Combien ces disciples d'Emmaüs nous ressemblent finalement ? Combien ils nous ressemblent parce qu'ils commettent en fait trois erreurs que nous commettons très très couramment. La première des erreurs, c'est qu'ils ont une fausse image de la mission de Jésus. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc eux, ils attendaient un Messie qui prendrait le pouvoir face aux Romains. Ils n'avaient pas compris quel était le but de Jésus, quelles étaient les quatre doctrines fondamentales qui nous aident à vivre. Une fausse image de la mission de Jésus. D'où l'intérêt de se poser la question, qui est Jésus pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et en quoi Jésus peut m'aider dans ma vie? Deuxième erreur commise par les disciples d'Emmaüs, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir Jésus œuvrant dans leur vie. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ont Jésus qui marche à côté et ils ne le voient pas. Combien de fois dans ma vie je ne vois pas Jésus à côté? Je n'arrive pas à voir Jésus à l'œuvre. Il m'arrive des tuiles, je me dis, mais il m'arrive des tuiles, c'est Satan qui m'en veut, j'ai péché, blablabla, blablabla, je me fais un film. Oui, c'est peut-être ça, ça peut être ça. Mais souvent, Jésus œuvre dans notre vie au travers de ce qui nous arrive. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Seigneur, ouvre les yeux, fais tomber les écailles de mes yeux pour que je comprenne ce que tu es en train de faire dans ma vie. Que tu aies 10, 20, 30, 50, 60, 80 ans, retourne-toi et regarde ce que Jésus a fait dans ta vie. Pourquoi il t'a amené là? Pourquoi il t'est arrivé là? Quelles sont les étapes? Prends ta vie, réinterprète-la à la lumière des Écritures. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a eu ça? En quoi Jésus t'a amené? Juste après ma conversion, moi, à la base, je suis docteur vétérinaire. Dieu m'a envoyé dans le commercial. Je travaillais avec des gens qui n'avaient pas le bac. J'étais commercial et j'étais très mauvais commercial. Et ces gars-là, ils vendaient bien et moi, je ne vendais pas. Je ne comprenais pas. Et j'en ai vraiment bavé. J'ai pris des claques dans la figure pendant 3 ans. Mais quand je regarde à cet épisode, ça a été génial. Parce que j'ai fait 100 000 km dans ma vie, enfin par an dans ma vie. Et j'avais des cassettes, je louais le Seigneur, j'ai fait mon étude biblique, j'ai écouté des messages et des messages. Ça a été un moment de bénédiction, même si c'était difficile. Donc, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Regardons ce que fait Jésus dans notre vie au quotidien. Et puis, le troisième problème des disciples d'Emmaüs, qui nous ressemblent tellement, c'est de croire que Jésus ignore nos situations. C'est de croire qu'il ne s'intéresse pas. J'ai un petit truc, oh Jésus, il ne s'intéresse pas, Jésus, il s'intéresse aux grandes missions, il s'intéresse aux... Hein, si Billy Graham parle de 80 000 personnes, Jésus est sûrement là. Mais en fait, ma situation, ça ne l'intéresse pas. C'est ça qu'on croit parfois. Ce n'est pas la peine de lui en parler, on se dit, c'est un petit truc, je ne veux pas en parler à Jésus, je ne veux pas l'embêter, lui, il traite que les gros cas. Un problème de prière, finalement. C'est un problème de prière. Et ça, c'est illustré chez les disciples d'Emmaüs. Es-tu le seul? Il leur pose la question. Es-tu le seul qui demeure en Jérusalem, ne sait pas ce qui s'y est passé? En fait, c'était le seul qui savait exactement ce qui s'était passé. Et ils leur mettent en question, es-tu le seul? Ben nous aussi, on est comme ça. Seigneur, tu ne comprends pas ce que je vis là? Regarde, je te demande là depuis je ne sais pas combien de temps et tu ne comprends pas. Mais si, Jésus comprend. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il était assis à la droite de Dieu, qu'il intercède, etc. Donc, 3 erreurs communes qu'on commet. Hein, 3 erreurs. 1, on a une fausse image de la mission de Jésus. On a une fausse image de qui est Jésus. Et rappelez-vous, je vous ai dit, l'identité qu'on a de Jésus va conditionner notre propre identité. 2e erreur, ils n'arrivent pas à voir Jésus à l'œuvre dans leur vie au quotidien, et dans le passé, et dans le futur. 3e erreur, croire que Jésus ignore nos situations, qu'il ne s'y intéresse pas, et que ce n'est pas la peine de lui en parler. Alors finalement, si on résume... Voilà, c'était comment vivre au présent. Si on résume, voilà, les 4 doctrines et leur implication. S'il y a quelque chose à retenir, c'est peut-être ça, la synthèse. C'est que la croix nous donne la possibilité d'être pardonné et réconcilié, que nous savons que nous allons ressusciter et être transformés à la ressemblance de Christ avec un corps glorieux, que Jésus est monté au ciel, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est présent au quotidien, qui œuvre dans notre vie. Jésus intercède, il prie pour tout sujet qui est important pour nous et qu'il a préparé une place. Et enfin, il est venu sur cette terre pour nous laisser un modèle de grâce et de vérité. Il nous a montré finalement comment vivre au présent et qu'est-ce qu'on peut faire donc pour l'imiter. Alors par l'étude des Écritures, et encore une fois j'en reviens à la parole, aujourd'hui on a cité peut-être 15 fois la parole, eh bien revenons à la parole et laissons cette parole nous mettre le feu au cœur. Depuis combien de temps est-ce que la parole de Dieu n'a pas mis le feu à votre cœur, comme ceux du disciple d'Emmaüs? C'est ça la question. C'est que Jésus marche à nos côtés, mais nos yeux sont parfois empêchés de le reconnaître. Alors laissons-nous interpeller par Jésus, qui nous dit « Ô homme sans intelligence ». Et il a raison. Quand je regarde à ma vie, je suis parfois un homme sans intelligence. J'ai parfois du mal à comprendre. Je suis lent à comprendre. J'ai des visions faussées. Mais heureusement, la parole de Dieu est comme un baume qui m'éclaire les yeux et je vous encourage à vous laisser éclairer. Je voudrais vous laisser avec cette question. Quelle est la doctrine des quatre qu'on a vue que j'ai le plus besoin de réviser cette semaine, finalement, dans ma vie? Et je me la pose à moi, je vous la pose à vous. Qu'est-ce que j'ai besoin de réviser comme doctrine cette semaine? Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis peut-être on va avoir la réponse de Marc sur combien de pieds faut-il pour... pour être stable. 3. Bon, alors, est-ce que vous voulez enlever une de ces doctrines? Non, alors on va laisser sur 4. Voilà. Merci beaucoup.